Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Martino.
Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
Alors, nous parlons à Joseph Facal, l'excellent chroniqueur du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Joseph.
Salut, Richard.
Alors, mon Dieu, c'est déprimant ton texte. Ta chronique est excellente, mais tu reviens bien sûr sur cette offre d'emploi qui a fait couler beaucoup d'encre de salive de l'Université d'Ottawa pour un poste de professeur de droit civil. Et on dit clairement que seulement les CV des gens racisés autochtones seront pris en compte. Donc, si tu es blanc, n'envoie même pas ton CV. Est-ce que c'est du racisme selon toi?
Bien sûr que oui. On peut bien le déguiser sous des oripeaux vertueux, mais c'est une ségrégation systémique, institutionnelle, bien entendu. Et tu viens de parler d'Ottawa. Si les gens lisent ma chronique, je donne aussi d'autres exemples.
Ben oui.
À l'Université Laval, à McGill, etc. En fait, Richard, tu dis que mon texte est triste. Oui, oui, c'est un sujet que j'aborde toujours avec beaucoup de tristesse, parce que le rôle des universités est absolument crucial. Il s'y passe des choses gravissimes dans l'indifférence générale et, bien entendu, dans l'indifférence générale, parce que ceux qui tirent les ficelles de ces dérives veulent surtout qu'on n'en parle pas. Ce qu'il faut comprendre, Richard, c'est que, à la différence des pratiques de jadis, où on disait à compétence égale, on va prioriser le candidat ou la candidate d'un groupe minoritaire, non, non. Maintenant, ce sont des postes réservés. Et bien entendu, c'est non seulement les politiques d'embauche, mais aussi le financement de la recherche, etc. Et tout cela dessine inévitablement une médiocratie. C'est-à-dire que on va passer d'un milieu ultra-compétitif méritocratique à un milieu qui va devenir médiocre, parce qu'on va choisir les gens sur la base non pas de ce qu'ils font, mais de ce qu'ils sont.
Mais moi, le combat anti-racisme, pour moi, là, c'est une question de génération, j'imagine. Mais pour moi, c'était on va faire en sorte que la couleur de ta peau ne compte pas. Jamais quelqu'un va te barrer la route et va t'empêcher d'obtenir un poste parce que tu es noir, par exemple, tu es asiatique. Mais là, on est rendu parce que tu es noir, on va te donner le poste. Mais c'est pas ça combattre le racisme, là.
Voilà. C'est faire de la couleur de peau un véritable marqueur. C'est-à-dire, c'est enfermer les gens dans leur couleur de peau. Et tu sais, Richard, l'excellence dans la recherche universitaire, elle est cruciale pour la prospérité d'un pays. Et l'excellence dans la recherche implique que c'est forcément un milieu ultra-compétitif. Et qui dit ultra-compétitif dit évidemment système méritocratique. On prend les meilleurs. Eh bien, imagine un sport professionnel où on dirait « Ah ben, il y a trop de ceci, trop de cela. » Alors, dorénavant, au prochain repêchage, on ne pourra sélectionner que des gens de telle couleur ou de telle catégorie. Qu'est-ce qui arriverait? Le niveau de jeu baisserait inévitablement. C'est à ça qu'on se condamne au nom des bons sentiments. Et le pire de ça, c'est que si c'était pour corriger une supposée discrimination, peut-être. Mais Richard, je t'assure, je vois des embauches dans le monde universitaire depuis une vingtaine d'années. Il n'y en a pas de discrimination ou de racisme systémique. On regarde où tu as fait ton doctorat, quelle publication tu as. Est-ce que tu es dans un champ de recherche qui comble un besoin que nous avons? C'est pas vrai qu'il y a une discrimination. D'ailleurs, c'est drôle parce que il y a un prof de McGill dont je parle qui est lui-même issu d'une minorité visible, spécialisé dans les lasers et qui, dans sa demande au gouvernement fédéral, a eu le malheur de dire « Moi, je me fous de la couleur de peau, je me fous de la religion, je vais prendre les meilleurs. » Ce fut fatal.
Et ce fut fatal parce qu'il ne réussit pas à obtenir des bourses pour mener sa recherche. Une recherche, il faut le dire, c'est un spécialiste, ce gars-là, des lasers à haute intensité. C'est un domaine très niché, important. Donc, lui voulait constituer la meilleure équipe possible et se foutait de avec qui il couchait, quelles étaient leurs couleurs de peau, etc. C'était un homme ou une femme avant. C'est bon. Il voulait les meilleurs. Et là, on leur dit non. Non, c'est pas les meilleurs qu'il faut que t'embauches. Il faut que t'embauches des gens de telle et telle race. Mais c'est fou furieux parce que lui-même est d'origine indienne et lui-même trouve ça débile.
Tout à fait. Et le professeur Kambampati a dit, je me suis fait, et c'est évidemment un chercheur reconnu, il s'est fait refuser deux demandes. La première, il a dit, bon ben, je vais me taire, j'essaierai pas là, de trop brasser la soupe. Après la deuxième fois, là, il dit, je ne me tairai plus. Parce que, comme il dit, la méritocratie, c'est-à-dire sélectionner les meilleurs, c'est une position moralement tout à fait défendable. Et ce qui est absolument triste, Richard, c'est de voir le nombre de gens dans le milieu qui pensent exactement ce que je dis, mais qui, évidemment, ne le diront pas parce qu'ils ont peur. Et ça, je pense que c'est tragique.
Et là, tu arrives avec plein d'exemples, et même tu dis que je peux pas tous les mettre. Il y a faute d'espace, j'ai d'autres exemples. Alors là, tu sais, il y a les gens qui disent, ah oui, le wokisme, bon, c'est un petit peu trop fort de café, mais ça a pas vraiment d'influence, ça a pas vraiment de pouvoir sur notre société. Ben non, c'est rendu dans les universités, là.
Ah non, écoute, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement grave. Et ça se passe dans l'indifférence générale, parce que probablement, beaucoup de gens se disent « Oh, c'est une tour d'ivoire, c'est loin, c'est déconnecté. » Non, non, ça a des impacts réels dans la société, et c'est très, très grave. Et moi, écoute, je suis un modeste lanceur d'alerte, et je vois que les lecteurs, quand ils lisent le journal, sont tout à fait estomaqués par ça. Mais c'est ça, la nouvelle réalité, et elle est dramatique.
Que ces idées-là circulent...
Bonjour, je vais vous couper, là, malheureusement. Je vais juste pas en quitter, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que...
Je ne comprends pas qu'on vous avertit pour le match. Maintenant, la patente est terminée. Merci.
Bon, alors, une intervention qu'il y a eu. T'es là toujours, Joseph? Joseph est pas là, donc je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Il nous parlait peut-être en direct de son université. Mais bon, je reviens là-dessus que des idées comme ça, woke, circulent dans des départements de sociologie ou de philosophie, c'est une chose, Joseph. Mais que maintenant, c'est en train de gangréner même les sciences dures, ça n'a pas de sens.
Ah oh non, écoute, si. Je peux comprendre, à la limite, que dans des disciplines comme les sciences sociales, où il y a une sorte de dimension idéologique, on puisse avoir ces débats virulents. Mais quand c'est rendu que ça atteint les lasers, la médecine, la chimie, la physique, la biologie, tu réalises finalement, Richard, que rien ne résiste à une idéologie qui est justement devenue une religion. Et c'est le propre des religions. Elles sont englobantes. Elles ne connaissent aucune frontière et elles veulent s'imposer partout. Eh bien, nous sommes là et c'est extrêmement regrettable.
Et c'est pour ça que je dis que c'est triste, c'est que tu dis que nos universités sont rendues médiocres parce que ça devrait être la crème de la crème, les meilleurs des meilleurs. C'est l'équipe étoile, l'université.
Oui, bien, en fait, pour le moment, on ne voit pas encore les conséquences de cela dans la mesure où ces politiques absolument néfastes sont en train d'être introduites. Mais évidemment, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, on va voir les résultats. Car, Richard, la vérité oblige à dire que dans certains domaines, pour trouver des futurs professeurs qui vont être de la bonne catégorie ethno-raciale, il faudra fouiller assez loin. On ne prendra pas parmi les 3, 5 ou 10 meilleurs. Et là, évidemment, forcément, le niveau va être tiré vers le bas. Et bien entendu, dans le domaine scientifique, écoute, la corrélation entre l'excellence de ta recherche et la prospérité, la compétitivité de ta société, elle est absolument démontrée et irréfutable. Donc, pour le moment, on s'en aperçoit pas. Mais on est en train de dessiner, de préparer une déferlante de médiocrité. Et le problème, c'est à partir du moment où ces politiques deviennent officielles, institutionnelles, et c'est ensuite de les enlever. Et c'est ensuite de les détricoter.
Mais là, c'est rendu, écoute, qu'on dit que les mathématiques, c'est une science colonialiste parce que ce sont les Blancs qui ont décidé que 2 plus 2 égale 4. C'est fou, raide,
non,
là.
Non, c'est fou, Richard, et ça va plus loin que ça. En fait, si je peux me permettre, Sophie Durocher relevait l'autre jour que dans le wokisme, certains ont flairé le filon payant, rémunérateur. Ben, effectivement, on voit aussi la même chose dans le monde universitaire. Un de ces jours, je te parlerai d'une chercheuse ontarienne qui, elle, vient de recevoir un financement de 1,2 million de dollars pour voir l'effet des pratiques autochtones traditionnelles sur, tiens-toi bien, la prévention du cancer. Autrement dit,
ben, voyons donc.
Oui, je pourrais même te donner des références. Autrement dit, il y a des gens aussi qui sont bien entendu brimés, discriminés, écartés, mais d'autres, au contraire, qui orientent leur carrière en fonction des nouveaux vents idéologiques.
Mais la science, c'est la science. Il n'y a pas une science de blanc et une science d'autochtone. C'est ridicule. Ben, la science, c'est la science.
Ça, c'est ce que toi et moi pensons. Et c'est si tu veux, l'idée dominante en Occident depuis 100 ans, 200 ans. Mais à partir du moment où, comme je l'expliquais dans des tas d'autres chroniques, beaucoup de gens disent « Non, il n'y a pas de vérité objective. » Tout n'est que construction, tout n'est que représentation, et bien à ce moment-là, tu es en train, évidemment, de scier toute la branche même de l'objectivité. Par ailleurs, à partir du moment où tu dis, bon, alors certaines catégories sociales ont été pénalisées, brimées, discriminées, stigmatisées, et bien tu vas voir, par exemple, des choses comme dans l'enseignement des mathématiques, attention de ne pas leur faire trop de peine en insistant trop sur la justesse du résultat. S'il dit que 2 et 2 font 3 ou que 2 et 2 font 5, ne le corrige pas, tu pourrais nuire à son estime de soi. On est toujours dans ce discours victimaire, et ce qui est évidemment pénalisé là-dedans, c'est l'effort, l'excellence, l'objectivité, la justesse.
Incroyable. En tout cas, ton test et ton texte, ta chronique d'aujourd'hui, elle, oui, déprimante, inquiétante, mais sacrément bonne, cela dit, là, parce qu'il faut le dire, et merci de tirer la sonnette d'alarme. Merci beaucoup, Joseph Facal. Bonne semaine.
Merci de me donner l'occasion d'en parler, Richard. Merci.
Salut.
Salut, bye.